Dans le cadre de nos rencontres du vendredi avec des chercheurs, nous recevons cette semaine M. Stan Matwin, qui est professeur à l'École d'ingénierie et de technologie de l'information de l'Université d'Ottawa. C'est un spécialiste des systèmes de protection de l'information personnelle et du vol d'identité, mais aussi de l'intelligence artificielle. Monsieur Matwin, bonjour.
Bonjour.
Ah, quand on tombe dans l'intelligence artificielle, c'est toujours très fascinant. Comme d'ailleurs la protection de vol d'identité. Qu'est-ce que vous faites exactement comme recherche, là? Parlons d'abord du vol d'identité, là.
Alors voilà, vous savez, je réfléchis un peu sur ma recherche en général. Et je me suis dit, c'est quoi la première objection que les gens font par rapport à l'informatique? Ouais. Et je pense qu'ils y voient, certains, une menace par rapport à notre vie privée. Alors je me suis dit, qu'est-ce que nous, qui ont quand même fait des choses de sorte que c'est possible, quels dispositifs techniques nous pouvons mettre en place pour essayer de résoudre ce problème et pour donner à des gens des outils qui vont protéger leurs données personnelles.
Alors, vous en arrivez à la conclusion que c'est possible de protéger, même
oui,
sur l'informatique.
Oui, je pense que c'est possible. Je pense que ça prendra un effort. Je pense que ça prendra un effort d'éducation aussi qu'un effort au niveau technique, installation des dispositifs.
Des coupe-feu ou des choses comme...
Tout à fait, au niveau logiciel, etc. Et aussi, je pense que ça prend une certaine compréhension, en général, dans la société, par exemple, par rapport... c'est quoi la différence entre la sécurité et les données personnelles?
Ouais.
Pour vous donner un exemple, vos données dans votre banque sont très bien protégées au niveau de sécurité. C'est-à-dire, normalement, quand vous faites une transaction en ligne, vous pouvez être certain que personne n'a accès à ces données. Mais quand même, vous êtes complètement identifié comme individu par la banque. Alors ça, ce n'est pas vraiment la protection de la vie privée, c'est la protection de sécurité. Mais comme vous êtes identifiable comme une personne particulière, je pense que ça peut, dans certains cas, porter en danger votre vie privée, les choses que vous n'aimeriez pas que les autres sachent à propos de vous.
Mais déjà, sur le marché, je pense à PayPal, entre autres, dont on peut se servir pour payer, par exemple, des achats sur eBay. Ce sont quand même des systèmes qui sont sécuritaires. Parce que PayPal a nos numéros, mais le marchand, lui, n'a pas les numéros de carte de crédit, enfin, toutes
tout
les coordonnées.
Tout à fait, absolument. Ça, c'est complètement sécuritaire, 100%. Oui. Mais moi, je pense plutôt d'une autre situation. Par exemple, disons que votre compagnie d'assurance vous contacte et vous dit « Monsieur, on apprend que souvent, après avoir loué un DVD qui a un film qui a une poursuite de voiture, le lendemain, vous êtes en excès de vitesse. »
Ouf, oui,
alors,
je comprends.
Vous voyez, c'est plutôt ce genre de choses où on trouve des faits sur vous qui sont distribués sur plusieurs ordinateurs, on les met ensemble et on arrive à des conclusions surprenantes, et les conclusions que peut-être vous n'êtes pas prêt à partager avec des tiers.
Mais là, on a l'impression que c'est de la fiction. Là,
c'est de la réalité.
Non,
tout ça, c'est bien possible.
Tout
ça, c'est bien possible. Et je pense, on voit des cas comme ça arriver. Presque tous les jours, on a des informations, des renseignements sur des violations de vie privée des individus qui arrivent, pas nécessairement par une façon malicieuse, mais tout simplement par une erreur humaine. Par exemple, quelqu'un dans un hôpital peut envoyer un courrier à l'interne et par erreur le copier en dehors de l'établissement. Les gens peuvent trouver des informations personnelles qui ne leur sont pas destinées.
Mais là, M. Matwin, on peut parler aussi de l'assurance-emploi, par exemple, qui va faire un lien avec un passeport qui a été tamponné
exactement
au Mexique.
Exactement, ce genre de choses.
Alors, on peut faire un lien en disant que la personne n'était pas en recherche d'emploi pendant deux semaines.
Là. Tout à fait, c'est ce genre de choses qui se fait, je pense, couramment.
Déjà, oui.
Oui, alors je pense que la société, maintenant, aujourd'hui, voit surtout des solutions légales, juridiques, qui sont intéressantes, mais bien sûr, c'est des solutions qui arrivent après le fait. Vous voyez, la violation de vie privée est déjà arrivée. Alors nous, on pense à des dispositifs techniques qui vont, par exemple, régler de façon stricte, au niveau logiciel, qui sait qui a accès à vos données.
Dans le cas des cartes à puce, qui de plus en plus, et d'ailleurs dans certains secteurs, je pense à Rimouski, où la carte soleil a une carte à puce, où dès qu'on inscrit la carte, on a notre dossier complet, peu importe où on la présente.
Tout à fait.
Il y a également les puces, maintenant Interact aura sa puce très bientôt.
Aussi, bien
ça, est-ce que c'est sécuritaire?
Ça, c'est assez sécuritaire.
Mais est-ce qu'on risque
de... Mais je pense qu'il y a un danger par rapport à vos données privées qui seront encore plus distribuées. Par exemple, vous allez payer avec votre carte à puce dans un parcomètre. Alors quelqu'un saura que c'est vous qui a été garé dans cet endroit de 15h à 15h10. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Tandis que pour l'instant, si vous y mettez des pièces, ce n'est pas le cas.
On est vraiment en pleine émission de télé, mais
tout ça est réel, et c'est des dangers qui arrivent. Je pense, moi j'appelle ça un Tchernobyl de données, c'est-à-dire une situation qui va arriver,
qui va exploser,
et qui va faire à la société, qui va faire réaliser à des gens qu'il y a un grave problème, qu'il faut s'y mettre.
Qui pourra nous permettre éventuellement aussi, et je pense à ce pédophile qui a été arrêté là-bas, on a pu, grâce à son téléphone cellulaire, savoir où il était à travers le monde. Alors ça a des bons côtés,
comme,
mais
comme
ça peut
toujours
avoir des...
la technologie, ça a des bonnes et des mauvaises côtés. Il faut essayer de trouver l'équilibre. Et à mon avis, trouver l'équilibre, c'est surtout l'éducation, l'enseignement, la compréhension.
Bon, autre facette de votre travail, c'est l'intelligence artificielle dont on parle. Le thème remonte quand même à 50 ans, là.
Oui, mais nous, on voit ça un peu différemment. C'est-à-dire, on n'essaie vraiment pas de construire un être intelligent. Ouais. On essaie de réduire la tâche à des applications bien simples. Par exemple, on travaille maintenant avec une compagnie ici à Ottawa sur un système qui va servir de jeu numérique pour tout ce qui est entraînement, certification du personnel dans les entreprises.
Alors, c'est une espèce de formateur, ordinateur.
C'est une espèce de formateur enseigneur, mais aussi d'examinateur électronique. Par exemple, si on veut que vous soyez certifié comme quelqu'un qui s'y connaît en réparation de voiture, on va vous faire
premier soin, par exemple,
ou en réanimation, tout à fait. Ou même quelqu'un qui est qualifié à travailler dans une pompe d'essence, on va vous mettre dans une situation où dans un jeu, vous allez jouer un rôle, et on va voir non seulement quelles sont vos connaissances théoriques, mais comment vous vous comportez dans une situation réelle, qui peut être une situation dangereuse.
Ça pourrait être l'examen pour la conduite.
Ça pourrait être l'examen pour la conduite. C'est un bon exemple, parce que là, vous avez tout à fait le côté théorique à choix multiples, et là, ensuite, vous avez le côté pratique. Effectivement, nous, on construit des jeux qui vont aider à faire ce type d'examen pratique, qui pourront se faire à distance, et quand même avoir la même qualité qu'un individu se rendant à un examinateur qualifié.
Et ça, on parle de combien d'années, là?
Oh non, ça, c'est sur le point de sortir. On a déjà des clients, et ça sort sur le marché. Et il y a une partie recherche où je travaille à partir de mon laboratoire à l'université aussi.
Et tout ça, c'est fait de l'université?
Tout ça, c'est fait de l'université. Tout ça a commencé un peu à l'université, tout à fait.
Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut exporter?
Tout à fait, oui, bien sûr. On pense à l'exportation.
La question était bête, là. Je voulais dire, est-ce qu'il y a déjà des gens à l'extérieur qui sont intéressés?
Absolument. Il y a certainement des gens aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Je pense aussi en Australie qui s'intéressent à ce type de certification par jeu électronique.
Mais là, il n'y a pas question de remplacer les professeurs.
Non, pas du tout. C'est plutôt question de permettre aux gens de se faire examiner plus facilement. Par exemple, disons que vous vous trouvez dans un endroit éloigné, quelque part, où il n'y a pas d'examinateur et vous voulez quand même passer cet examen. Alors là, vous pouvez peut-être le faire en ligne et l'examen sera de même qualité que si vous vous rendez dans un centre urbain pour le passer en personne.
Bon. Pour arriver à l'élaboration de ce que vous venez de décrire, qu'est-ce qui manquait?
Alors, ce qui manquait, c'est surtout, c'était pas le côté technologique, c'était de se mettre ensemble avec les spécialistes des jeux. Donc, d'un côté, il y avait des spécialistes en jeu, d'autre côté, il y avait nous avec notre intelligence artificielle, et de troisième côté, il y avait des gens qui s'y connaissaient en tout ce qui est normes pour examen, certification, etc.
Donc, c'était de réunir ces gens-là.
C'était juste de réunir ces gens-là ensemble, de se parler et de voir qu'on a des choses communes, qu'on peut travailler ensemble.
Ah, c'est fascinant. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Matwin, d'être venu cet après-midi. Stan Matwin est professeur à l'École d'ingénierie et de technologie de l'information à l'Université d'Ottawa. Julie, dans la circulation.
Alors, le quiz...